Émission débat culture, actualité, santé. C'est tout de suite sur Radio VL avec Check L'Actu.
Assurez toute l'année avec la SMEREP. Retrouvez-nous sur www.smerep.fr.
Bonjour à tous et bienvenue dans Check L'Actu. Comme à votre habitude, vous nous retrouvez chaque semaine et on est ravis que ce soit le cas. Merci à vous de nous suivre parce qu'on a de plus en plus d'auditeurs et que ça nous fait plaisir, je tenais à le dire avant de commencer cette émission. Aujourd'hui donc avec nous et pour votre plus grand plaisir et votre information culturelle et actuelle, ça ne se dit pas, en actualité de la semaine, on a vos chroniqueurs préférés habituels. On dit bonjour à Sonia.
Coucou,
ça va ?
Salut Olivia, ça va ?
Passé une bonne semaine ?
Oui, dur mais ça a été.
Dur mais ça a été, bon bah très bien. On dit bonjour à Ahmed également.
Bonjour.
Bonjour, ça va toi ?
Ça va, tranquillement.
T'as l'air fatigué. Hein,
ouais, quand même.
Ouais, dure semaine comme Sonia ?
Ouais, dure semaine.
Bon, très bien. Est-ce que Nicolas, toi ta semaine, rehausse celle de nos deux chers comparses ici ?
J'ai un peu de cernes, mais ça va, ça va.
Mais ça va.
On fait aller.
Bon d'accord, alors c'est une émission déclopée à moitié endormie donc et
mais non,
on parlera quand même,
j'espère, mais
parce
oui,
qu'on va
oui.
parler de sujets qu'il va falloir ambiancer puisqu'on va parler de la France au Mali, hein, sujet qui manque un petit peu d'ambiance en ce moment, donc je compte sur vous.
Surtout qu'on n'en entend jamais parler en ce moment.
Ah non, pas du tout,
c'est
un sujet que j'ai été trouvé au fin fond des archives, un truc très original.
Je me doute.
Exactement.
On l'a cherché ensemble, je sais que ça a été du
travail.
Voilà,
c'est ça, j'en aurais pas parlé comme ça, enfin. On va parler également un autre sujet original dont vous n'avez pas entendu parler cette semaine. On va parler libération de Florence Cassé. Bah oui, quand même. On parlera également le biopic sur Mahomet. Je sais pas si vous en avez entendu parler parce que ça, en revanche, on en a un peu moins parlé quand même cette semaine, voire pas du tout. Bref, on abordera tous ces sujets et puis on parlera médias avec toi, Nicolas.
Oui,
exactement.
Oui,
il paraît.
C'est génial.
C'est cool, t'as l'air au courant.
Je suis au courant de cette affaire.
T'as vu de la lumière, t'es rentré quoi.
Ouais, direct, je me suis installé, j'ai mis mon casque, je me suis dit pourquoi pas la faire cette émission.
Eh ben voilà, écoute, c'est pour notre plus grand plaisir parce que ça fait plaisir quand même de te recevoir. Depuis un petit moment. On parlera également un sujet un peu approchant parce qu'avec toi, Ahmed, on verra, on reviendra sur le dérapage qu'il y a eu sur RMC.
Sacré dérapage.
Exactement. Oh là là, comment vous créez le suspense pour ceux qui n'en ont pas entendu parler.
Alors là, restez jusqu'à la fin, là, je peux vous dire que c'est quelque chose.
C'est du lourd.
Moi, je vis un peu dans une cave, j'en ai pas du tout entendu parler.
Non, toi, tu vis dehors, Sonia.
Oui, c'est vrai.
Tu vas être comme les auditeurs, tu vas attendre la fin de l'émission pour savoir ce qui s'est passé. Voilà.
Donc voilà. je vous propose qu'on commence tout de suite avec ce fameux sujet dont on n'a pas entendu parler cette semaine, la France au Mali. Il y a un journal qui titre cette semaine « A-t-on les moyens ?» Et c'est pour ça que c'est la question de la semaine. Je voulais vous demander, est-ce que vous pensez, vous, à votre échelle, parce qu'évidemment, on n'a jamais toutes les informations pour pouvoir se prononcer sur ce genre d'événement, mais apparemment, c'est la mode de se prononcer et dire si oui ou non on est d'accord avec l'intervention militaire française au Mali. Est-ce que vous pensez que c'était nécessaire ?
C'est nécessaire, mais on n'en a pas les moyens. J'ai vu les chiffres vraiment débordants cette semaine. Je crois que ça s'élève à plusieurs millions d'euros. Ça fait peur parce que, c'est une nécessité. C'est une nécessité parce qu'on voit quand même qu'il y a du résultat et ça fait plaisir.
Ouais.
Mais d'un autre côté, on se dit, putain, merde quand même. 400 et quelques millions d'euros alors qu'on est en déficit. Et là, ça fait réfléchir. En fait.
Exactement.
Ça, j'ai bugué sur le chiffre.
L'Express qui titrait l'Express ou Le Point de cette semaine
c'est l'Express. L'Express. C'est nos ennemis islamistes.
Le Point qui titrait, avons-nous les moyens, en gros.
Ouais.
Je sais pas si on en a les moyens, mais enfin, on les a pris, là, en tout cas.
Clairement, on les a pas, je pense.
On les a pas, mais on les a pris.
On a les moyens humains. Les moyens humains,
que c'est le matos qui a coûté plusieurs millions. Là.
Et puis il faut les transporter, tous ces soldats, il faut les amener là-bas quand même.
Le budget pour accorder à l'armée, enfin toute la logistique militaire sur le PIB de la France, à votre avis, en pourcentage
Question pour un champion.
Non, moins quand même.
Moi,
c'est pas du tout.
Un scoop, écoutez.
12, et c'est déjà
12.
Énorme.
Oh, c'est déjà ah oui, quand même.
On n'est pas dans la même cour que les États-Unis, par exemple.
Pour le coup, pas du tout.
Mais on a un poids historique.
La question de la légitimité se pose aussi. Hein, parce
le poids historique.
C'est les alliances, tout ça. Mais moi, je trouve que c'était une nécessité, en fait, d'y aller. Mais c'est vrai que quand on est citoyen français, comme ça, on se dit, on est en déficit de plusieurs milliards d'euros.
Pourquoi est-ce qu'on va voilà. en plus aller dépenser de l'argent
voilà.
là-bas ?
Même si je suis très très content qu'ils soient allés, parce que bon, c'était vraiment un peuple à sauver et ils étaient vraiment sous l'emprise des islamistes.
Effectivement.
Mais d'un autre côté,
il y en a qui se demandent, est-ce que c'était à nous de le faire ?
Voilà.
Et c'est aussi la question.
Bien sûr.
Bon, maintenant
bien sûr
on a de l'aide.
La France, il y a un passé colonial, ce que je disais, et puis sans faire de mauvais humour. La fin justifie les Maliens, donc ils étaient prêts à tout pour s'en sortir.
Ouais.
Voilà, pour pas sombrer dans l'islamisme.
Et maintenant, la France n'est pas toute seule aussi.
Non, elle est, bien oui. sûr,
elle a
elle
été réunie. Donc les États-Unis ont ramené donc du matos. Je crois que c'était, enfin, les pays voisins aussi.
Il y a une belle,
entraide.
Il y a une entraide. C'est même, je crois que la façon d'agir de la France, c'est encore plus chevaleresque. Mmh, ça fait beaucoup plus gentleman qu'en Libye.
Ouais.
En Libye, on avait l'impression d'assister à une boucherie de la part de l'OTAN, c'est-à-dire ouais. ils interviennent directement.
Là, ça a été fait quand même. Bon, il y a eu quand même des décès.
C'est plus sobre,
mais ça a été fait.
C'est plus sobre.
Ouais.
Mais bon, ça a été masqué par la prise d'otages en Algérie. On
aussi,
on avait traité le sujet la
semaine
dernière.
C'était ma question suivante. Est-ce que vous pensez
tu
que
la
ça
devances.
Met en... mais oui, non, mais j'aime beaucoup ça. Ça met parmi une transition. Merci, Ahmed. Est-ce que vous pensez que du coup, la présence française dans certains pays musulmans est menacée?
Un petit peu quand même.
Un petit peu.
Ouais.
Un petit peu,
ouais,
pas trop.
Sûr,
ouais,
enfin. Bah si.
Parce que
parce qu'ils représentent l'Occident tout de suite. Quand on les identifie dans la rue, moi j'ai le plaisir d'aller par exemple en Algérie,
ouais.
vu que je suis originaire de là-bas, l'été.
J'y étais cet été,
voilà,
c'était très sympa. Et j'ai envie de dire un truc après sur l'Algérie.
Ok, je te laisse. ils représentent l'occidental tout de suite, et même nous qui sommes pupilles de la nation française,
ouais.
de la République, on représente.
Ah oui, t'es
on représente carrément.
Ah oui, algérien.
Voilà, exactement.
T'es
pour
algérien
les Algériens
de
sur
là-bas,
place,
quoi.
On représente les.
De là-bas au fond, là.
Voilà, donc c'est ce qui s'est passé. Ils ont tout de suite été pris à partie, quoi. Il y a même, c'était sur France Info, j'écoutais un podcast, il y a un otage algérien qui témoignait que les terroristes, quand ils sont entrés dans la zone de sur le site gazier,
oui.
ils ont épargné les Algériens. Ils leur ont dit, on ne veut rien, on n'a rien contre vous, tout ce qu'on veut c'est les ressortissants étrangers,
les occidentaux.
Voilà. Et d'ailleurs, au niveau de la sécurité, c'est ça que je voulais dire, au niveau en Algérie, quand j'y étais, souvent, on me dit, où tu vas cet été ? J'ai dit en Algérie, et il y a beaucoup de Français, et ça c'est malheureux de le penser, qui me disent, mais t'as pas peur du terrorisme ? Alors que c'est un pays qui est le plus sûr du Maghreb.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il y a des barrages tous les 100
les 30,
mètres.
Ah ouais, tous les 30
kilomètres.
Non,
c'est tous les 30. Moi, dans l'endroit où j'étais, il y en avait à chaque fois.
Ils
me contrôlaient, moi j'ai rien fait, je levais les mains, mais bon.
Ouais, c'est vrai que c'est
mais,
très impressionnant.
Voilà, c'est important de le dire. N'hésitez pas à aller en Algérie parce que c'est un super pays, vraiment.
Ouais, moi j'ai jamais été, mais c'est vrai que j'ai très envie d'y aller.
Ah ouais.
En tout cas, ça a masqué le Mali.
Ouais,
c'est
ça a masqué,
dommage.
Ouais.
Mais bon, je le disais la semaine dernière, le petit groupuscule de terroristes qui s'est présenté sur le site gazier allait en direction, tu te rappelles Nicolas, allait en direction
ouais.
du Mali.
Ouais, ouais.
Ah oui, ils allaient en direction du Mali, donc ils avaient leur plan de route.
Oui, de toute façon, tout est lié.
Leur petite feuille de route.
Ouais.
Pas...
Mais bon,
ils mettaient des miettes de pain derrière.
Feuille de route, qui a des trucs à faire, ils cochent. Alors enlever des occidentaux, ça c'est fait, je coche.
Ils mettent des miettes de pain derrière. Attends, pour qu'on s'y retrouve là-dedans.
Au secours, quelle image de terroriste, les pauvres. Le terroriste petit poussé. Merci beaucoup. Non, bon, bah écoutez, on espère en tout cas que. Enfin, là. Enfin, quoi qu'il en soit, il n'y a pas grand chose d'autre à dire dans la mesure où voilà, il y a intervention française au Mali, on attend de voir. Et,
ouais, voilà, c'est une affaire en
soi,
en cours.
À part se poser
c'est
des questions, on peut rien faire.
Si on regarde en campagne de communication sur la guerre, entre guillemets, on est moins fort que les Américains qui dominent la discipline.
Bah,
parce que quand ils interviennent
c'est
en 2003.
Sûr. Ils ont été beaucoup plus violents.
Voilà, ils ont été plus violents, mais
ils sont doués pour construire et maintenir cette image de nation et avoir toute cette nation derrière eux.
Voilà.
Et pour eux, quand t'es américain, quand l'armée, ton armée, parce que l'armée américaine, c'est ton armée, t'as les drapeaux chez toi, etc. Quand elle se bat quelque part, t'y es. Quoi.
Ça fait solidaire.
Et ça fait plaisir de les voir. On les voit souvent à la télé, les Maliens, en train de dire merci la France, vous nous avez sauvés. Moi, ça me fait ça qui me réconforte. Je me dis, c'était aussi de l'argent à donner parce que les pauvres,
ça me laisse sceptique et dubitative dans la mesure où je me dis, évidemment, les journalistes, ils vont aller trouver des moyens pour dire merci la France.
En même temps,
que
c'est évident, mais c'est évident.
Disent, non, mais vous avez torpillé ma maison, etc. On les verra pas. Hein.
Non, mais bien sûr, mais c'est évident quand même qu'il y avait des villes entières qui étaient prises par les islamistes. Donc, c'était aussi des familles qui vivaient un petit peu dans la peur et dans la crainte. Bon, si ça a pu faire quelque chose de l'aide, mais voilà, moi, c'est le taux. Enfin, on n'aurait pas dû me dire le coût que ça a coûté. En fait, ça m'a un peu. Mais bon. Après, c'était nécessaire.
On aurait dû le masquer.
Ouais,
c'est
ouais.
Dommage.
Non, ça, on aurait pas dû le masquer,
certains pays,
je pense.
Parce qu'il y a certains pays qui ne communiquent pas les budgets de l'armée.
Ouais. Oui, mais en France, je pense que ça serait plus compliqué
voilà,
dans la mesure où.
Au
voilà,
moins, c'est de la transparence.
Au
moins,
c'est de la transparence.
Enfin, de la transparence, je suis pas sûr. Dans la mesure où le chiffre, selon le ministère de la Défense, est différent du chiffre que donnent les journalistes, qui est encore différent du chiffre que vont donner d'autres médias un peu plus indépendants, genre Mediapart. Je suis pas sûr qu'on puisse parler de transparence.
Mon ami,
Mediapart,
ça nous rappelle des souvenirs si vous avez écouté les précédentes émissions.
C'est le canard noir, attention.
Le canard noir.
Oui, c'est le petit canard noir, celui qui sort complètement de la masse. Tu vois, dans le journalisme, il sort complètement de la masse Mediapart et dès qu'il faut titiller, ben, il titille.
Est-ce que c'est une mauvaise chose en même temps voilà.
Je suis en train d'empiéter sur Macron.
Il recherche, il recherche les vérités.
On
va parler
avec toi alors.
Mais ce n'est pas une nouveauté qu'une guerre coûte cher. Et pourquoi elle coûte cher? Pourquoi on accepte de mettre autant de thunes là-dedans? C'est aussi parce qu'il y a beaucoup à gagner. Et au Mali, il y a certainement beaucoup à gagner.
C'est vrai.
Non,
que
non, mais je suis d'accord.
Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'en dehors, la France paye plusieurs millions là, d'euros. Mais en contrepartie, le Mali aussi, au niveau des matières premières, peut-être va apporter à la France aussi
même
quelque
humain.
Chose. Je pense pas qu'ils vont.
Même humainement.
Même humainement,
déjà,
voilà.
Même
humainement. C'est vrai.
Il y a de quoi, par exemple, sauver PSA ou encore sauver, sauver
alors là,
Renault. On ne sait pas sur la délocalisation. On a vu que Renault s'était délocalisé à Tanger, au Maroc.
Moi, c'est ce genre de truc, ça me fait peur parce que moi, je crois que foncièrement, je crois que vraiment qu'on va arriver à une situation exactement comme au Soudan, c'est-à-dire qu'on va séparer le pays en deux, on va faire un Nord Mali qu'on va laisser aux islamistes et un Sud Mali sur lequel on aura une espèce de protectorat, mais sans vraiment le dire, tu vois, et où justement on pourra, sous couvert d'utiliser des moyens, des ressources, enfin voilà, des trucs humains, de la richesse humaine. Enfin, non, on s'en fout. Enfin, ce sera
mais
juste
quand,
une espèce de deuxième colonisation,
mais
tu
quand
vois.
Tu regardes, tu
enfin. Je sais pas encore
vois,
comment ça va se passer, mais vraiment,
moi,
je vois venir ça comme ça.
Quand tu regardes le Soudan, le Soudan est entouré de pays pas forcément francophones, tu vois.
Mm-hmm.
Et il n'y a pas vraiment un poids français, un poids du pouvoir français sur place.
Ouais.
Tandis qu'il y a un lourd passé, comme je disais tout à l'heure, en Algérie,
Kenya,
au Maroc,
oui.
Sur le Sénégal.
Bah oui.
Donc tout ça, le fait qu'il y ait un lien avec
c'était
la France,
des anciennes colonisations,
colonie,
c'est vrai.
Ça va aider beaucoup mieux que dans d'autres zones comme au Darfour.
Ouais.
Ouais, ça va aider dans la mesure où on a la même langue. Enfin,
là pour l'instant, ouais.
Non, faut être prudent.
Enfin, au Mali, en l'occurrence, ils parlent français.
Tout à l'heure, on lisait le petit dessin là, à l'arrière de l'Humanité. Donc, rares sont les gens qui lisent encore l'Humanité.
Oui,
voilà.
Voilà, pour la petite anecdote, en fait, il y avait Ahmed qui avait l'Humanité dans les mains.
Ouais.
Et je lui ai dit, attends, c'est à toi l'Humanité là? Il me fait, non, je l'ai pris à la radio. Ah, je lui dis, putain, sinon je t'aurais pris en photo parce que c'est tellement rare de voir un mec avec l'Humanité aujourd'hui. Désolé pour les gens qui le lisent, mais c'est vrai que.
Jean Jaurès se retournera dans sa tombe.
Mais
le dessin était pas mal quand vous avez une photo, comment, le dessin de Hollande, il passe de l'homme normal au Nord Mali. Il est habillé en treillis. Voilà, il passe
beaucoup.
De normal à Nord Mali. Ça, franchement, c'est pas mal. Quoi.
C'est génial.
C'est du niveau de Charles dans Charlie Hebdo.
Ouais, c'est génial.
Si ça se trouve,
c'est
lui.
Quel dommage que personne ne lise l'humain et que donc personne.
Bon, achetez au moins cet exemplaire.
Soyez humain.
Voilà, soyez humain. Donnez 1,50€ pour la bonne cause pour lire une blague. Sinon, vous l'achetez pas, vous lisez. C'est en quatrième de couverture.
Après, je suis d'accord avec ce que tu disais, Sonia, que c'est pas nouveau qu'une guerre coûte cher, mais je pense que si on met vraiment l'accent sur le prix et le coût de cette guerre aujourd'hui, c'est aussi parce que ça fait un petit bout de temps qu'on rabâche aux gens, il y a la dette à payer, il y a les intérêts de la dette
ça,
à payer
moi,
avant de
perturbe.
Payer la dette, et en plus vous avez pas de pouvoir d'achat, on va augmenter les taxes.
Quand
les
tu vois Renault, tout ça, quand on voit plein de personnes.
Je suis d'accord que c'est
licenciées.
Dans le contexte de crise qui rend ça complètement aberrant.
C'est pour ça.
Je suis complètement d'accord.
Ouais.
Mais après, mon point, c'était simplement de dire que, à mon avis, on va recevoir pas mal aussi, que ce soit d'une manière légale.
De toute façon, si la France
pas
a intervenu,
nous,
plutôt pas
ouais,
aussi que parce que voilà.
Mais nous,
voilà.
On pense comme ça, mais enfin, les gens qui connaissent pas grand chose en politique, ils vont se dire attends, il y a encore 300 000 chômeurs en plus cette semaine, on est endetté jusqu'au cou, la France emprunte depuis des années, et on voit en gros titre des journaux 400 millions d'euros pour le Mali. Donc, dans la tête des gens, ils vont pas se dire oui, mais ça va nous rapporter quelque chose, etc. Ils vont tout de suite se dire putain, on est dans la merde, il y a des chômeurs en plus, il y a des emplois qui se perdent, surtout qu'il y en a beaucoup qui sont atteints par le chômage, et que ce soit leurs enfants, leurs parents. Dans leur tête, tu te dis mais enfin voilà, tu vois, c'est une bonne chose, mais
voilà, ton discours
ne fonctionne pas comme ça.
Il est top ton discours, tu sais pourquoi? Parce que ça rappelle un petit peu la crise de Suez en 56. tu vois, où les Français et les Britanniques étaient coincés au canal de Suez. Tu sais, ils s'opposaient à Nasser, qui était président de l'Égypte, et ils voulaient appeler les États-Unis en renfort à ce moment-là. Et les États-Unis, ils les ont renvoyés dans les cordes en leur disant vous vous occupez de vos colonies. C'est le poids colonial, vous allez manger votre pain rassis. Ouais. Et là, en quelque sorte, c'est sans faire de chauvinisme, hein, aucun, mais en quelque sorte, les Français sont en train de manger leur pain rassis.
Bah oui.
C'est, voilà, c'est un poids historique.
Après, ce poids historique, les gens n'en ont pas forcément conscience. Et ce que dit Nicolas est très vrai. Moi, je me suis embrouillée encore hier avec une personne qui me disait mais le Mali, mais qu'on les laisse. Enfin, en soi, qu'est-ce qu'on en a à faire? On n'a pas d'argent. Qui se bastonnent entre eux, qui règlent leurs problèmes. On n'a pas à intervenir dans leurs problèmes. On a eu nos problèmes, on les a gérés tout seuls. On a eu des Danton, des Robespierre, etc. Alors qu'en soi, je trouve que ça n'a rien à voir. Mais je pense
qu'Hollande aussi essaye de faire une posture internationale.
Voilà,
il a trouvé le moyen. Mais ce qui est dégueulasse, c'est que c'est juste un plan de com, quoi.
Oui, mais c'est un plan de com qui coûte des millions. Dans sa fonction aussi.
Il est chef de l'État, représente.
Il est chef des armées.
Je suis d'accord.
Il gère.
Je suis entièrement d'accord. Il doit représenter.
De plein gré, il gère à volonté.
Ok, c'est dans sa fonction, mais c'est pour oublier qu'il a pas fait une seule réforme socialiste.
Voilà. Mais bien sûr.
Entre le mariage gay et le Mali, là, il est content.
C'est ça. Moi, ce qui me gêne un peu. Enfin, je donne un peu mon opinion sur la chose, c'est que le gouvernement ils font toujours des trucs soit sociétaux, soit internationaux.
T'es à gauche.
De quoi?
T'es à gauche.
Moi?
Non, mais je te dis le pouvoir est à gauche.
Oui.
Non, pas toi.
Non, mais
le pouvoir
je suis d'accord.
Gauche,
oui, mais on rentre pas dans le fond. On rentre pas dans le fond du problème.
Non, je suis pas d'accord. Parce que en soi, toutes leurs promesses de campagne, on les attend toujours.
Bah
et
oui.
Là, les seuls trucs, ils savent qu'ils ont les
c'est de la façade,
pieds
en fait.
Et mains
c'est
liés
me...
sur tout ce qui est économie ou grande réforme,
la
parce que parce qu'en soi, ils peuvent rien faire.
Elle était axée sur l'économie, elle était axée sur les emplois, les emplois jeunes.
Sauf qu'ils peuvent rien faire.
Et là encore, 300
000, sur le social et l'international, il y a eu une aubaine. Ils se sont dit ah bah tiens, on peut faire un truc. Le sociétal, oui. Excusez-moi.
D'ailleurs, on peut pas faire de référendum à cause de ça.
Ouais.
Parce que c'est une question, le référendum, c'est seulement pour les questions économiques, sociales et une autre, bref. Et là, c'est une question, le mariage homosexuel, c'est une question sociétale. Et donc, juridiquement, nous n'avons pas le droit de faire de référendum sur le sujet.
Faudra remercier Charles de Gaulle.
Tira expliquer ça.
Puisqu'on veut modifier le code civil pour changer, enlever les mots pervers ou quoi que ce soit, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas aussi modifier ce truc-là et faire des référendums?
Non, mais Tira à Frigide Barjot, là,
on est en train de sortir
du Mali, mais bon, sur le mariage pour tous. Quand on regarde, les gens s'alarment.
On en a jamais parlé dans cette émission.
Ils sortent dans la rue, les gens s'alarment, mais la plupart de ceux qui s'alarment sur le mariage pour tous, un père, une mère, c'est ceux qui ont voté Hollande. Ils étaient d'accord.
Ouais, ouais.
C'est dans ces 60, c'était je sais plus combien de points, ces 60 points.
Il y avait tu sais comme moi que les gens qui ont voté Hollande n'ont pas lu.
Je vais dire même plus. Les gens qui ont voté Hollande n'ont pas voté pour Hollande.
Ils ont
voté contre Sarkozy. Et c'est même pas des. Enfin, c'est pas une parole que je sors comme ça. Quand tu regardes les sondages qui ont été vrais.
Juste une seconde, quand on dit ça, on met pas tout le monde dans le même sac,
non,
on fait une généralité.
Non,
vous pouvez
évidemment.
Très bien avoir voté Hollande en connaissance de cause et en ayant lu le programme
évidemment.
Et en ayant.
Non,
voilà.
Mais juste, oui, mais.
Je précise.
Voilà, ouais, bien évidemment. Mais en fait, après, il y a eu un sondage qui est sorti et c'est malheureux, j'espère pas, j'espère qu'il est faux, limite que 64% des gens qui ont voté François Hollande ont voté contre Sarkozy.
Ça m'étonnerait tellement pas.
Voilà, mais c'est ça, mais bien évidemment, vous avez voté François Hollande, peut-être vous avez voté François Hollande en conviction, évidemment.
Oui,
sur sa stature internationale, il n'y avait pas de quoi voter pour Hollande.
Quelle stature internationale, moi,
j'ai aucune affection pour Sarkozy, mais Hollande, sur la scène internationale, il ne vaut presque rien.
Bah,
moi, je m'étais laissé.
Tu l'as vu le premier jour avec Merkel.
C'était Angela Merkel ou je ne sais plus qui avait dit, un membre éminent du gouvernement allemand, je crois, j'ai pas envie de dire une bêtise,
si,
qui avait demandé mais qui est François Hollande.
Voilà, c'était un ministre de l'économie.
Mais oui,
de l'économie,
c'était dans le petit journal.
Ouais.
C'était dans le petit journal.
C'est le ministre des Affaires étrangères en Allemagne.
Mais non, mais ils
n'avaient
pas demandé qu'à lui, ils avaient demandé à plein de parlementaires allemands en disant qui est le président de France. Il y en a un même qui a sorti François Mitterrand. Celui-là, à mon avis, il devait être déterré, celui-là, quand même. Hein. Il devait avoir trop bu, enfin, on ne sait pas. Quand même, François Mitterrand, c'était en 81 et 88, quand même. Ça fait un peu vieux.
On a appelé René Coty aussi.
Oui, voilà. Ou De Gaulle, là. Harry libéré.
Mais Paris.
Bon, bah, en attendant, nous, on attend de voir bah, comment
bah, l'évolution.
Enfin, voilà, ouais, comment voilà. Ça va, bah, ça va évoluer, ce que ça va donner.
De
et
toute
comment
façon, les zones grises, dans le journalisme, les zones grises, on a très peu d'informations.
Ouais.
On a très peu d'informations, c'est ça qui est difficile.
Ouais, et, puis,
à,
et c'est difficile voilà, de concilier à la fois l'information des journalistes et des Français et la sécurité, le secret défense, où est-ce qu'on se place. Enfin, c'est assez compliqué aussi de gérer ces trucs-là. Et donc, c'est pas forcément une volonté de ne pas informer la population. Mais bon, on verra au fil du temps comment ça va se passer.
Quand vous regardez, ça fait comme en Syrie, on ne sait plus du tout ce qui se passe. Quoi.
Non, ouais.
Ouais, voilà. Non, mais
puis, est-ce que ça intéresse vraiment les gens
mais bon. Bah, là, y
je pense que
titre.
Ça n'intéresse
moi,
pas les gens.
Non, mais, non, mais c'était une question.
La titraille,
il y a une titraille qui était sublime, je ne sais plus c'est quel journal, qui titrait « Silence, on tue en Syrie ».
Ça c'est horrible. Ça.
Et c'est vrai. C'est, ouais. Bon, dans ouais, l'humour noir, c'est du feutré.
Oui, oui, bien sûr, bien sûr.
Mais quand on,
ça interpelle au moins.
Voilà, ça interpelle. Ouais. Silence, on tue en Syrie. Mmh. C'est vraiment ce qui se passe. On, ah, on,
non, mais il y a des
pas.
Gens encore à qui tu demandes Alep, c'est dans quel pays et qui sauront pas. Alors que ça fait la une des journaux. Enfin non, ça, ça a fait la une des journaux. Mmh. Et aujourd'hui, ça fait 2-3 petites lignes, un petit paragraphe dans les journaux pour dire bah Alep, on bombarde. Il y a encore tant de civils qui ont été tués. Sauf qu'on enfin ça n'intéresse pas
on
les
est passé
gens.
Du printemps arabe au printemps placard.
Voilà. Et en attendant, on parle de sujets un peu plus français, un peu plus sociétaux, un peu plus sociaux comme par exemple la libération de Florence Cassé dont on parlera. Mais avant, je vous propose d'écouter une petite chanson et bah, pourquoi pas Michael Jackson avec Beat It et on revient juste.
They told him, don't you ever come around him. Écoute, c'était dans l'émission Check l'actu, présentée par Olivia Marc.
Merci à vous d'être resté avec nous, ça fait toujours plaisir d'entendre de la bonne musique.
Surtout du Michael.
Exactement, et puis je ne sais pas si on passe Michael Jackson dans les prisons mexicaines, mais ça fera peut-être plaisir également à Florence Cassé de réentendre Michael Jackson. Cette transition était pourrie, mais je l'aime beaucoup.
C'est parti du Mexique en moonwalk.
Ça aurait été classe, franchement. Ça aurait été trop classe.
Ah bah oui, sur l'eau vraiment. En plus.
Ça aurait été
génial. Nickel.
Il
n'y
aurait pas
nickel,
eu que Jésus qui aurait marché.
Il y aurait eu aussi Florence Cassé. Bon, alors, vous savez ou vous ne savez pas, et vous venez de l'apprendre donc, que Florence Cassé a été libérée après 7 ans de détention.
Ah bon ?
Oui,
c'est pas vrai.
Si. Alors, ma question, la question
pas,
que je vous pose, c'est est-ce que ça change votre vie ?
Oui. D'ailleurs, je me suis réveillé de bonne humeur ce matin, j'ai envie de dire. Non, mais c'est une bonne nouvelle.
Si, c'est une bonne nouvelle. C'est au cas où tu pars en vacances et que tu tombes, comme on dirait dans le jargon, tu tombes dans un drame,
tu te retrouves
en prison,
on va
te libérer. Voilà, que tu peux compter sur la France, quoi qu'il arrive.
Ouais, tu peux.
Que ce soit Mali ou Cassé, on compte sur la France.
Mais surtout, la question qui se pose, et ça c'est quand même un peu minable de voir qu'ils essayent de récupérer ça, c'est d'un côté on a le PS qui veut que ce soit François Hollande qui soit gagnant, d'un autre côté l'UMP, c'est grâce à Sarkozy.
Voilà, et Sarkozy qui dit je suis heureux et fier de cette libération.
Voilà, mais bon, au final, le principal c'est qu'elle soit libérée, pas récupérer ça sur le plan politique.
C'est bête, c'est un travail d'équipe.
Avant même la récupération,
oui,
sur le plan politique.
Voilà, je suis d'accord avec toi, Ahmed.
Tu vois, le 4x100 mètres dans le sport, le passage de témoin, c'est tous les concurrents, enfin là, tous les membres de l'équipe qui sont récompensés.
Là, on dit que c'est la classe politique. Sur le coup, ils n'ont pas été classe parce que de dire oui, c'est l'un, l'autre, c'est l'autre. Non, pour une fois, ils peuvent être d'accord ensemble, PS et UMP, en se disant c'est un travail d'équipe.
Qui serre la main comme ils ont fait au CRIF.
Espérons, Olivia, peut-être
tout
arrive.
On peut rêver, mais là.
On est dans un pays démocratique.
Il y a un truc que moi qui me chiffonne et je n'ai peut-être pas compris, et dans ce cas-là, vous allez m'expliquer, mais. Pourquoi est-ce que on a donc son avocat, le PS et tout le monde qui disent donc on va la chercher, on est fiers de cette libération, alors que en fait elle a quand même passé 7 ans en prison et elle a été libérée non pas suite à une énième démarche de son avocat, ses parents, etc., mais suite à la cour de cassation qui a pris sur elle de réexaminer le dossier et de dire ah mais oui, il y a des vices de procédure et c'était pas légal, donc on va la libérer.
Bah moi, ce qui me chagrine, je m'en fous, mais enfin je veux dire, dans cette affaire, c'est pourquoi les juges à l'époque l'avaient autant condamné, que tout d'un coup
un coup médiatique à l'époque.
Ils voulaient en faire un exemple, depuis le début, la juge qui l'a libéré voulait sa libération depuis très très longtemps.
Ce qui est regrettable à dire, c'est que le Mexique, déjà, c'est une terre de délinquance.
Oui, et justement, à l'époque, ils voulaient faire des exemples en montrant que le gouvernement agissait donc contre tout ce qui est trafic de drogue, enlèvement, etc. Et donc ça avait été l'opération bénie, il y avait eu les médias sur place avant même la police pour interpeller les personnes. Donc c'était louche comme...
C'est regrettable pour Florence.
Après qu'elle soit coupable ou pas, on sait toujours pas.
On sait pas.
C'est regrettable pour elle parce que on se dit que s'ils avaient hérité à l'époque de Mesrine, le Mexique, c'était peine de mort, sans discuter. Voilà. Donc,
non, mais c'est vrai que si.
Elle a quand même été presque condamnée à la peine de mort, 87 ans de prison, c'est pas rien.
Ouais, à la limite, c'est même pire, j'ai envie de dire. Parce que. Enfin. Mais bon. Après, c'est toute une histoire.
Eh oui. Bon, alors Florence Cassé est libérée, vous le savez.
Non, mais c'est une très bonne nouvelle. Si...
Ah, une pierre de coups. Oui, hein. Après, Ingrid Betancourt, une pierre de coups.
Exactement.
Voilà. Donc on assiste à la. C'est la période des libérations.
Mais qui, du coup ? Qu'est-ce qu'il faut faire revenir?
Il y en a plein.
Peut-être Depardieu.
Gérard.
Ouais, c'est ça. Merci Sonia. Ouais, peut-être Depardieu. Faut le libérer.
D'accord. Donc en fait, il est pris en otage
par la Grèce.
Mais oui. Par Poutine. Par Poutine.
Non, il est pris en otage par sa Grèce. Il faut l'entretenir, sa Grèce. C'est pour ça.
Oh là là. Non, mais d'accord. Donc j'avais pas compris. Moi, je croyais qu'il s'était barré de plein gré. Mais en fait, non. C'est vrai qu'il a été pris en otage.
Il a été pris en otage. Il s'est retrouvé dans un train par hasard. On n'a pas compris pourquoi.
Je sais pas si vous avez lu la une des Un Rock, ils enterraient Gérard Page.
Oui, mais ça c'est lamentable. Moi, ils avaient enterré. Faut arrêter.
Ils
pensent qu'ils ont essayé de faire un petit peu de buzz.
Ils imitent Charlie Hebdo. Ils imitent Charlie Hebdo.
Mais en plus, c'est pas trop leur style.
C'est pas leur style.
Voilà,
donc,
c'est ça. Charlie Hebdo, c'est une patte.
Alors, Charlie Hebdo,
c'est une patte.
Ça s'improvise pas.
Charlie Hebdo, c'est vrai que malheureusement, et c'est très malheureux, ils se sont fait brûler leur siège. Mais pourquoi? Enfin, même si ça fait de l'audience, c'est vrai que ils ont bien vendu grâce à ça.
Ils ont vendu, mais moi, moi ce que j'avais aimé, tu sais, j'étais à la conférence de rédaction, elle était au théâtre du Rond-Point quand les locaux ont été brûlés. C'est le fait que Demorand ait volé au secours de Charlie Hebdo. Le directeur de la rédaction de Libération.
De Libé maintenant.
Et voilà, il a volé à leur secours.
En même temps,
et là, il y avait une vraie entraide.
Je pense qu'il ne pouvait pas faire autrement. Ouais. En tant que journaliste, tu ne pouvais pas dire ah oui, effectivement, vous avez dépassé les bornes, c'est bien fait pour vous qu'on ait brûlé vos bureaux. Enfin, tu étais obligé en tant que journaliste de défendre l'information.
C'est droit aussi au droit d'expression de la presse. Ouais.
Voilà, mais moi, je m'attendais plus à, par exemple, le Canard enchaîné. Parce qu'ils sont un peu sur la même longueur d'onde.
Ouais,
mais
eux,
c'est pas la même chose.
C'est pas la même chose.
Mais
c'est des médias. C'est des médias. Si tu regardes, c'est des journaux qui dérangent.
Ah oui.
Plus ou moins. Parce qu'ils mettent
ils
la
ont
vérité
pas
sur
la même ligne éditoriale.
Mais tu regardes la ligne éditoriale de Libé. Bon, Libé, c'est tout misé sur la photo. Ça, c'est...
Les deux sont satiriques, sauf que
mais
la seule différence.
Ils s'attaquent pas aux mêmes personnes, aux mêmes cibles, aux mêmes peuples, aux mêmes communautés religieuses, aux mêmes.
Voilà, le Canard enchaîné, il va plus mettre en avant des affaires. Bon, voilà, des tournants,
des personnalités, et des personnalités politiques.
Alors que Charlie Hebdo, c'est plus de
c'est
l'humour
causes,
noir.
C'est des
un peu.
Voilà, c'est l'humour noir et c'est les causes dans le monde. Enfin, en France et dans le monde, quand on voyait Shoah Hebdo ou alors sans coup de fouet.
Heureusement qu'on a des journaux comme ça. Quand même, qui dénonce aussi des choses parce qu'il faut arrêter un peu le politiquement correct à chaque fois de se dire qu'il faut toujours être dans le bien, dans les règles.
Et puis on s'ennuierait surtout.
Tu reprends la ligne éditoriale, c'est une maxime de Beaumarchais Le Figaro. Sans la liberté de blâmer, n'est point d'éloge flatteur.
Oh là là, t'as du talent, Ahmed. Hein, en fait. Quelle connaissance, connaisseur.
Ah bah, il faut bien se cultiver comme les plantes.
Exactement. Bon, du coup, sur ce, je propose qu'on close le sujet parce qu'on va revenir là-dessus tout à l'heure quand on abordera le biopic, ce fameux biopic de Mahomet qui sort et qui fait un peu un peu pas scandale encore hein, mais qui fait grincer des dents et qui plaît pas à tout le monde.
Moins scandale que le film qui était sorti du producteur israélien là qui mettait en avant
un vrai faux film, c'était un truc juste pour attiser.
Mais bien sûr, c'était pour attiser. Il avait 60 dans son équipe de tournage, il avait 63 personnes avec un budget de $5 millions. Donc je crois que même Dieudonné qui avait fait son film L'Antisémite il a eu plus de bons retours peut-être.
Effectivement. Bon, on reviendra là-dessus tout à l'heure. En attendant, je vous propose qu'on écoute une petite chanson puis qu'on revienne avec Nicolas qui nous parlera d'audience radio on verra ça avec toi tout à l'heure, mais avant, on écoute Oasis.
Slowly fade away. So I started.
L'information, la culture, les bons plans et les personnalités qui font l'actu. Décrypté par les meilleurs, c'est Check l'actu avec Olivia Marc.
L'information, les bons plans et je ne sais plus quoi qui était dans le jungle. Exactement, c'est nous. Donc, on parle, comme on vous l'a promis, de Options Médias avec Nicolas.
Check l'actu.
Alors, dans ce nouvel option aux médias, dans Check l'actu, je vais vous parler d'audience et pas n'importe lesquelles, les audiences radio. Alors, nous sommes en milieu de saison et pour les stations, le premier bilan des grilles de rentrée a sonné. Ajustement de leur programme ou pas, les animateurs tremblent à la vue de ces chiffres. Ont-ils plu ? Les auditeurs sont fidèles ? C'est la grande question du moment. Alors, on note cependant pas de gros bouleversements dans le classement. RTL reste la première radio de France avec 12,5% d'audience cumulée, le pourcentage d'auditeurs ayant écouté une radio au moins une fois dans la journée, hein, je rappelle ce que c'est. Elle affiche une belle progression sur un an et elle reste devant Énergie. Alors cependant, 0,7 points séparent les deux stations contre 0,4 il y a un an. Il y a de quoi trembler. Hein. Donc si on prend le critère de la part d'audience, donc qui tient plus compte de la durée d'écoute, Énergie fait un grand bond en avant et reste un challenger de poids et en se rapprochant dangereusement d'RTL. Alors pour France Inter, le mot à retenir est stabilité en confortant sa deuxième place des radios généralistes. Alors par contre, petite faiblesse pour Europe 1, n'ayant pas atteint la barre symbolique des 10%, la radio de la rue François 1er obtient 9,1%. Restant stable en part d'audience, elle perd 0,3 points d'audience cumulée. Du côté d'RMC, ça progresse les amis. Hein.
Ah oui, ça progresse.
Un niveau jamais atteint, 8%. Et enfin, France Bleu qui atteint 7,6% d'audience cumulée, plus 0,5 points. Ça fait un peu, c'est bien de dire les points comme ça. Bah, et 6,9% de part d'audience, plus 0,7 pour eux. Donc la station frôle.
Qu'il parle de la bourse.
Donc la station frôle les 4 millions d'auditeurs chevaux, quotidiens. Tu sais. Donc je vous rappelle que la radio est largement consommée par les Français, bien plus que d'autres pays européens. Et d'ailleurs, en début de chronique, je parlais d'animateurs tremblants à la vue de ces résultats. Je vais vous parler des audiences parmi quelques émissions phares. Alors tout d'abord, ça peut vous arriver, diffusé sur RTL. Vous écoutez, vous, un petit peu ça ?
Non, bien sûr.
Ouais. Oui, ouais.
C'est de 9h30 à 11h et présenté par Julien Courbet.
Tous les matins. Tous les matins, je jongle. Mais ce que j'aimais, bon, maintenant c'est Laurent Bazin, tu vois, sur la matinale.
Ah, il est bien.
Il a remplacé Parizeau, mais Parizeau, ça reste un mentor.
Et ben, en tout cas, voilà, lui, il réalise la meilleure audience, toute radio confondue, à cet horaire-là, avec 1,25 million d'auditeurs. Ouais. Donc pas trop de soucis à se faire de ce côté-là. Alors mon émission, vraiment, que j'adore. À côté de Check l'actu, bien sûr. Donc avec On va gêner, Laurent Ruquier et sa bande rassemblent 643 000 auditeurs de 15h30 à 18h, plus 61 000 fans sur Europe 1. Il reste cependant très loin des 1,2 million des fidèles des grosses têtes. Bonne réponse de Bernard Mabille, largement leader de 16h à 18h. Donc, mais Philippe Bouvard est en fort recul entre 17h30 et 18h. Bon, beaucoup trop long de vous donner. Et oui, beaucoup trop long de vous donner les audiences de toutes les émissions. Mais si cela vous intéresse, elles sont facilement consultables sur Internet. Bon, j'ai envie de vous dire que le principal est de rester fidèle à l'écoute de Radio VL.
Oui, merci Nicolas. Tu t'es entraîné pour ce ton speakerine ou pas ? Tu fais ça tellement bien.
Ah bon ? Ah non, je non.
C'est naturel.
C'est vrai ?
Non, c'est naturel.
C'est naturel. Talent, c'est le talent qui ressort.
T'as peut-être mordu Mireille Mathieu avant de venir ?
Ah non, non. J'ai pas là encore la coupe au bol, je te rassure.
Non. Non, apparemment pas. Non, mais c'est bien parce que ça nous donne ça nous dresse un petit panorama de toutes les
audiences et voilà.
Parce que moi j'étais persuadée que Europe 1 se portait mieux que ça, tu vois.
Et bah non. Toujours Philippe Bouvard aussi.
J'aurais bien aimé connaître les audiences d'une émission du MOVE qui s'appelle Laura Lichman Project.
Oula.
Et qui est une émission qui passe entre 21h et
23h. Tu peux regarder sur internet,
c'est extrêmement bien. Mais je profite pour en faire de la pub parce que c'est vraiment très bien. C'est un truc où c'est une nana qui est franco-londonienne, je crois. Donc elle part avec un accent assez marrant. Et elle fait la promotion de beaucoup de toutes les nouveautés électro, mais aussi hip-hop. Toutes les nouveautés musicales vraiment en pointe. Et,
en tout cas, si tu veux savoir les audiences, elles sont très facilement consultables. Sur tous les sites médias, non.
C'est pas Médiamétrie qui fait.
Oui, c'est Médiamétrie, mais sur leur site, ou sinon tu vas sur, je sais pas, jean-marc-morandini.com, enfin tous les sites médias, et tu as tout le classement par émission.
Et voilà.
Bah, c'est cool, merci en tout cas Nicolas. On en apprend toujours beaucoup hein, concernant les médias avec toi. C'était la petite chronique qui manquait à cette émission. Je vais essayer de casser l'ordinateur de Sonia. C'est bien.
Le même que le mien en plus. Je dirais pas la marque. Mais...
Non.
C'est bien que le tien.
Ouais.
Incassable ces trucs-là.
Ouais, si j'ai pété l'écran, j'ai pété l'écran avant Noël.
Bon, très bien, alors on est parti discussion.
C'est une histoire d'ordinateur.
Non, mais bon. Du coup, toi Nicolas, tu vas nous quitter dans 5 minutes, je crois.
Oui.
Donc on te dit au revoir maintenant. Mais avant, on te demandera donc ton avis sur le troisième sujet d'actualité dont on voulait parler aujourd'hui avec vous, chers auditeurs, parce que oui, hein, on parle avec vous, on parle de vous, on parle pour vous.
Oh là là. Arrête, ils vont avoir leur mouchoir là comme ça.
Non, Olivia elle est en train de prêcher.
Elle est vraiment.
Mais en parlant de prêche, justement, je voulais vous parler donc du fameux biopic de quelqu'un qui a beaucoup prêché. Vu qu'il était prophète, c'est Mahomet. Ouais. Donc il y a une société Qatari qui, Sonia ne rigole pas, la transition était parfaite. Donc une société Qatari se propose donc de sortir un biopic de Mahomet avec pour objectif d'en faire un blockbuster. Le problème, c'est que donc il y a ceux qui disent que ça ne se fait pas, qu'on ne fait pas un biopic de Mahomet, qu'on ne représente pas à l'écran Mahomet, ses épouses, etc. Et d'autres qui sont plutôt connus d'habitude pour être contre ce genre d'initiative, mais qui là sont plutôt favorables et disent que c'est une bonne chose que ce soit un biopic fait par des musulmans pour des musulmans et que ça permettra de lever le voile sur ce mystère qu'est la religion musulmane pour un certain nombre de personnes. Donc je voulais vous demander qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une question
Charlie Hebdo qui se frotte les mains et qui déjà commence
qui est content.
Est-ce que c'est enfin au niveau de cette affaire, est-ce que si c'est pour redorer la religion musulmane qui est une très belle parce que moi ce qui me choque un peu c'est que la religion musulmane est une très belle religion. Malheureusement il y a toujours des groupes faut être averti, extrémistes
parce que toi tu es averti, on est averti,
mais
on
c'est dans toutes les religions ça en plus
ouais.
Dans la religion catholique il y a aussi des extrémistes.
Comment ils s'appellent, comment s'appelle déjà ceux qui ont manifesté à la réunion contre le mariage homo, Civitas. Bon bah voilà, moi je trouve que c'est moi qui suis catholique, je trouve pas que c'est des... ils me représentent.
Ah oui, non, mais bien sûr, mais de toute façon, il y a toujours des extrêmes dans tout.
Ouais. Moi je rejoins totalement Nicolas, je pense plus que c'est de la com.
C'est de la com.
C'est pour relancer un petit peu la religion qui n'a pas la cote.
Ouais, mais je suis pas sûr que ça serve la cause de la religion musulmane.
Il y a déjà eu un biopic sur sa vie.
Ouais.
Il s'appelait Le Message. Voilà, en arabe c'est Al-Risala et c'était le message et on ne voyait pas le prophète. C'est ce que les hautes instances religieuses à l'époque étaient montées au créneau, avaient dit non, surtout pas de représentation.
Dans l'islam, ça ne se fait pas de représenter les visages.
Voilà, si ça se fait pas après dans la religion musulmane, faut pas le faire. Je pense.
De toute façon, c'est fait par des Qataris, donc je pense que si ça se fait pas, ils
légitime,
le font pas.
Tu vois, mais bon, ce qu'il y a, ça légitime pas. C'est pas parce qu'ils ont un crédit illimité, tu vois, en termes de monnaie, parce que c'est quand même le pays vraiment qui a le plus la cote financièrement ces derniers temps, hormis le PSG. Mais quand on regarde les Qataris, ils s'imaginent qu'à coup de millions, on peut tout faire. Moi, j'ai vu, je regardais le mondial du handball. Je sais que le mondial dans 2 ans, bon là il se déroule en Espagne, il se déroule au Qatar.
Mais ils ont de l'argent, ils se proposent d'organiser des trucs, pourquoi pas.
Ils se lancent dans le cinéma, il vaut mieux pas.
Oui, mais
il vaut mieux pas.
Non, les pauvres, se lancent dans le cinéma, essayons. Après moi là je vois là où je vois pas l'intérêt, c'est que je ne vois pas l'intérêt de faire un film si c'est pour ne pas montrer ce que tu veux montrer et le sujet principal de ton film.
Ça, je suis d'accord.
Si c'est pour raconter la vie de Mahomet ou faire de la communication sur qui était le prophète, qu'est-ce que la religion musulmane, etc. Il y a un tas d'autres supports qui permettent.
Ça, je suis d'accord. Moi, si c'est pour dire que la religion musulmane est une belle religion, peut-être le faire de façon différente, Mais oh, c'est vrai que c'est ça, moi, c'est ça, ça me chagrine, hein, parce que j'ai plein de potes musulmans qui me disent bah, à chaque fois, parfois, même bah, nous, les médias aussi, on donne parfois une image de la religion que, qu'on n'aimerait pas donner,
même pas
peut-être.
Parfois, souvent.
Alors que c'est une, à la base, c'est une religion de partage, de paix. Et parfois, à la télé, on en voit, bah, ce qu'on voit, c'est toujours lié au terrorisme.
Mais, oui, mais alors, dans ces cas-là, est-ce qu'un biopic, c'est vraiment la bonne solution? Enfin, moi, je vois pas pourquoi un biopic de Mahomet.
Je suis d'accord avec toi.
Moi, je trouve pas que ce soit la meilleure solution. Autant faire un bon documentaire ou un documentaire,
voilà.
Je suis d'accord. Je pense que là, c'est vous à créer une controverse inutile.
Et à la baguette, moi, franchement, en tant que musulman, à la baguette, je mettrais même pas les Qataris. La personne que je mettrais, c'est Michael Moore.
Ah non, mais c'est pas une initiative.
Michael Moore, parce que,
qui a été
c'est
prise et qui a décidé de mettre les Qataris.
Michael Moore, c'est la catharsis dans le documentaire. Quand on regarde, quand il va sur le terrain, il fait vraiment jaillir la vérité.
Oui,
elle éclate
mais bon,
vraiment.
Ouais. Avec des si, on mettrait Paris en bouteille. Voilà, il l'a pas fait.
Mais quand
qu'il
on regarde les Qataris,
faire,
moyen
il en a pas
encore. Michael Moore, il exagère un peu parfois.
Oui, il exagère, mais t'as la vérité sur la table. C'est ça. Que tu l'apprennes ou tu l'apprennes pas, tu vois, Bowling of Columbine, c'est un super documentaire.
C'est sûr, mais voilà. Moi je peux pas. Je pensais par exemple à son truc sur
9/11 Fahrenheit.
Non, sur le système de santé américain. Ouais. Ça doit s'appeler Health ou Healthcare, je sais plus trop.
Ah, et, oui, ça me dit quelque chose.
Ouais. Et le truc, c'est que, bon, en effet, oui, c'est vrai tout ce qu'il dit, tu sais que c'est vrai, mais.
Ça fait lourd.
Ça prend partie ou pas? C'est-à-dire que ça devient limite un peu gênant pour nous français. Alors il vient justement chez nous et alors ça a l'air super, c'est baguettes, c'est fromage, c'est super, on paye jamais rien pour se soigner, on vit dans le meilleur des mondes, tu vois.
Mais tu vois, en connaissance de
Michael
cause.
Michael Moore, non mais ça c'est une question, c'est pas vraiment un débat à avoir, mais un documentaire, je pense que
il vaut mieux que ce soit extérieur au Qatar, mais un public bien averti.
Oui,
c'est-à-dire
que ce soit des Français, des Anglais,
il faut que ce soit un public bien averti et en connaissance de cause, qu'ils le fassent bien, vraiment bien, pour bien
ça,
le faire passer.
Ça, ils
dans
ont l'intention de bien le faire. Il y a un budget, mais mirifique, qui atteint les 1 milliard de dollars.
C'est énorme.
Après, je sais pas dans quoi va passer ce budget, vu que s'il représente pas les gens, il y aura peut-être pas d'acteurs. Enfin, je ne comprends pas. je ne comprends toujours pas l'intérêt de faire un film si c'est pour ne pas montrer les personnes. Mais bon. Mais non, ils ont vraiment l'intention de bien faire les choses. Il y a des commissions qui discutent sur le bien fondé de telle ou telle initiative, faire ça, montrer ça, dire ça, ne pas dire ça. Et je pense que le résultat sera mûrement réfléchi. Ouais. Je dis pas que ça ne causera pas de controverses, de bastons entre les gens ou de d'incendies locaux d'éventuels journaux qui auraient pour idée de reprendre l'histoire. Mais non, en attendant, c'est plutôt réfléchi pour le moment. Donc la question que je vous avais posée. Je l'ai oublié parce que je suis stupide.
Et moi en plus, je vais devoir vous quitter. Juste pour la question. Bah ouais.
Ah oh, bah non.
Bon, bah ça fait rien. La semaine prochaine.
Pleurez pas. Oui,
non,
oui.
Non. Bah non. Pleurer, ça c'est déjà fait, on le fait, mais non, on dit au revoir, on dit à la semaine prochaine. On parlera de télé-réalité avec toi la semaine prochaine.
Oui, alors là, le sujet que.
Tu surfes sur ma vague.
Ouais, mais alors tu vas être ahuri si t'as entendu cette affaire-là.
Ah bon. Ok, alors on reste là-dessus, suspense, énorme suspense.
Tu sais quoi, rien que pour te faire plaisir.
Je te donne un indice, France 2 qui lance quelque chose qui est inacceptable.
Je vais pas m'y intéresser plus que ça. Je vais juste voir l'info, comme ça, je serai très très bien surpris la semaine prochaine.
Voilà,
d'accord. Voilà.
Et t'as l'air déjà ahuri en plus.
Voilà. Et ceux qui nous écoutent aussi.
Au revoir, Nicolas, à la semaine prochaine. Salut. Bon, bah écoutez, avec le départ de Nicolas, je propose de clore également le petit sujet biopic Mahomet, parce qu'en fait, je ne sais plus où on en était. C'est bien, c'est très professionnel et journalistique. Et qu'on parle donc avec toi, oui. Ahmed, oui. De...
je sors sur la vague de Nicolas.
De Nicolas.
Voilà, sur les médias, et je parle d'RMC.
Parle d'RMC avec voilà. Donc le dérapage des grandes gueules. Donc on parle de ça immédiatement avec toi.
Check l'actu.
Alors, une information m'a indigné. Déjà, la semaine dernière, j'étais indigné sur le casting des Anges de la Télé-réalité 5. Mmh. Et là, je suis encore indigné. Et puis, ça a pollué mes oreilles au moment où j'ai écouté ça en direct. D'abord, c'est le journal du dimanche qui a révélé que l'accord passé entre DSK et Nafissatou Diallo s'élevait à 1,5 million de dollars.
Ouais, voilà, effectivement.
C'est un chiffre moindre que ce qu'avait plané. On disait 5 millions,
oui,
6 millions.
5, 6,
voilà. Et lundi, dans la célèbre émission des Grandes Gueules sur RMC, Alain Marchal et Olivier Truchot, assistés de leur chroniqueur. Alors, je rappelle qui sont ces intervenants. Il y a l'avocate Marianne Soubré, le conseiller en investissement Franck Tanguy. Ouais. Et la chef d'entreprise, Sophie de Menton. Donc, les deux derniers ne sont pas allés de main morte. Et je vais citer Sophie de Menton qui a déclaré « Tu veux que je sois politiquement totalement incorrect ? Je me demande, c'est horrible à dire, si ce n'est pas ce qui lui est arrivé de mieux. » En parlant de Nafissatou Diallo, moi, je pense que l'argent qu'elle a gagné, qui lui permet d'élever sa fille, elle ne l'aurait jamais eu dans toute son existence et j'espère qu'elle oubliera ce moment extrêmement désagréable. » Fin de citation. Donc Marianne Soubré, elle s'est opposée à cet argumentaire et elle a expliqué qu'il n'y a pas de prix. Voilà, il n'y a pas de prix pour un viol. Voilà. Et Sophie de Menton, elle a continué. Hein. Elle a lancé une phrase assassine juste derrière, une bonne petite pique. Et elle dit, oh, c'était pas vraiment un viol.
Qu'est-ce qu'elle en sait ?
Voilà, elle dit, bah, j'ai l'impression qu'elle était sur place, sans vouloir lui nuire. Mais Franck Tanguy, lui, il a repoussé les limites de l'accès. Alors lui, écoutez bien, mesdemoiselles, il est allé encore plus loin. Et les gens qui nous écoutent, écoutez bien. Hein. Il a dit, je me demande, il a dit, c'est un conte de fées. Il a dit que ce qui était arrivé à Nafissatou Diallo était un conte de fées. C'est un tromblon. Elle n'a rien pour elle. Elle ne sait ni lire ni écrire. Attendez, encore plus drôle. Elle est moche comme un cul.
Génial.
Voilà, je le cite, hein, ça viendra pas de moi. Et elle gagne 1,5 million de dollars, c'est quand même extraordinaire cette histoire. Voilà.
Ah oui, c'est un conte de fées. Cendrillon, voilà. En fait, vous avez rien compris. Chance. Cendrillon, elle se fait violer par le prince charmant qui, du coup, est obligé de lui filer 1 million de dollars et de l'épouser.
Voilà, mais il s'est excusé dans
non, mais c'est surtout des propos extrêmement forts et pas, tu vois, mais très insultants, quoi.
Mais voilà. Oui, je pense pas que ce soit des propos réfléchis dans la mesure où c'est le genre de truc.
Dans le cas d'une émission publique, tu peux quand même un peu mieux parler. Il y a un truc où.
Mais là où.
Je pense que c'est pour faire parler de ça.
En fait, quand il s'est excusé, c'était d'un chauvinisme, mais vraiment, mais ça. Ça a sauté aux yeux, c'est qu'il a dit « J'ai dit une beaufrie, je suis allé trop loin. »
Voilà. Je n'avais pas entendu les excuses. Ça, le dérapage, j'étais au courant, mais les excuses, je n'avais pas entendu.
L'excuse, il dit « J'ai dit une beaufrie, je suis allé trop loin. » Et ce qui est très beau, c'est que voilà, moi, je me laisse à prendre les podcasts sur RMC et il était introuvable.
Ah,
le
bah,
podcast de l'émission. C'est-à-dire que vous aviez l'émission de la veille.
Ouais.
Vous aviez l'émission du lendemain, mais vous n'avez
ils
pas l'émission.
Ils ont même pas juste coupé le moment.
Voilà, il y a nulle trace de l'émission. Ils ont
c'est
préféré
comme sur le, bah,
voilà.
Au moins, le journal
c'est
de
bien,
TF1.
Ça prouve qu'ils en ont honte.
Ouais. Vous avez pas entendu ça la semaine dernière quand il y a eu la manif contre le mariage pour tous. Donc TF1 a fait son JT le soir, bien sûr, normal. Et le lendemain. Impossible, pareil, comme tu dis, impossible de retrouver le JT du dimanche.
Bah voilà, c'est un très grand point commun qu'ont les gros médias, les genres de poids lourds, tu vois, que ce soit télévisuel ou alors que ce soit à la radio, ils n'assument pas. Voilà, dans la liberté d'expression, ils n'assument pas. Et si on regarde, c'est pas la première fois que la discussion elle a dérapé aux grandes gueules parce que RMC avait été mise en demeure par le CSA. Je ne sais pas si ça arrivera à Radio VL. J'espère que non.
On va peut-être se calmer.
Voilà, on espère que non. Après des propos tenus sur la communauté asiatique en 2008, quand tu avais toute la titraille à l'époque des journaux sur la communauté asiatique, sur la Chine qui est en train de se réveiller, tout ça. Mais bon, aujourd'hui, moi, je suis en train de me dire, et on devrait se dire, si on peut tout dire ou si on doit tout dire, bon, ça va paraître antithétique, mais la liberté d'expression
moi, je pense que c'est surtout et la censure... Non, mais c'est surtout comment on le dit, tu vois, c'est ça, ce mec là qui insulte cette pauvre Nafissatou Diallo. Ça n'a rien à faire là-dedans, le fait qu'elle soit moche ou belle. Ou...
Mais
c'est, ça, c'est ce qu'il pense, et je veux dire, même d'un point de vue journalistique ou intellectuel, on n'en a rien à battre, tu vois. Donc le type, il peut dire ce qu'il veut. Mais
il peut penser que c'est une bonne chose pour elle parce qu'elle a gagné de l'argent, mais il y a la façon de dire
émission,
effectivement.
Et puis l'émission se dit, voilà, parce que c'est encore ce truc où on fait de la polémique pour rien en fait, tu vois, c'est faire de la polémique pour faire du buzz.
Ouais.
Exactement. Et le truc s'appelle, voilà, l'émission s'appelle Les Grandes Gueules. Forcément, ils ont un certain standing de grande gueule à tenir, tu vois.
Sauf
que ta grande gueule dans ce que tu penses et dans les idées qui vont. parfois, en effet, faire boum et dans ces cas-là, faire avancer le débat. Ou alors, t'as pas d'idée et dans ces cas-là, voilà, tu utilises des mots qui sont crus, tu fais un peu ton beauf, en effet, et t'espères que ça passe. Et ben non, ça passe pas, mec, juste simplement parce que c'est juste... c'est débile, c'est ouais. juste bête. Et du moment qu'on se fasse, on n'aura pas une once d'intelligence pour privilégier les idées, justement, au buzz... au buzz et aux insultes.
Voilà, au buzz gratuit en plus. Enfin, bon. Bon, bah en tout cas, on espère que vous, ça vous donne envie ou pas d'écouter les grandes gueules, mais que surtout, ça vous donne un esprit critique sur tout ce que vous pouvez entendre à la radio ou pas, ou à la télé, enfin dans tous les médias. Nous, ce qu'on vous conseille en tout cas, c'est de ne rien écouter du tout, de ne pas regarder la télé, de ne pas écouter la radio. De toute façon, il vaut mieux vous enfermer dehors avec oui. ou comme Sonia qui, du coup, vous parle de sorties, culture, actu. Et c'est tout de suite.
Check l'actu.
Bonjour à toutes et à toutes. D'abord, permettez-moi de m'excuser pour mon absence prolongée, mais nos amis faqueux, préparationnaires et même lycéens comprendront bien que j'ai dû abandonner un petit moment le monde de la night pour me plonger dans les affres des révisions de partiels, recherches de stages et autres trucs chiants qui font qu'être jeune en 2013, et c'est pas tous les jours la teuf. Mais voilà, qui dit partiel dit fin de partiel, et qui dit fin de partiel dit énorme murge. Je n'ai donc pas échappé à la règle, et je dois vous avouer, mes loupios, que je ne suis guère fraîche en ce samedi après-midi, réveillée il y a à peine une heure, ayant empesté toute une rame entière avec un hamburger bon marché, j'ai eu tout le temps pour essayer de rétablir le fil de ma soirée d'hier et éventuellement celle d'avant-hier. De nuit blanche, donc, beaucoup à dire. Jeudi d'abord. Jeudi, on m'appelle. « Hey Sonia, viens, on va boire deux ou trois pintes à Saint-Gers. » Dans un élan de naïveté, j'accepte. Six pintes et trois martinis blancs plus tard, nous quittons la bonne auberge du Haut-Nil, au 20 rue des Canettes, et nous nous enfonçons au plus fort de notre courage, en face, cave Saint-Germain. Alors, mention spéciale pour cet endroit des plus glauques. À l'intérieur, son père, hormis un couple de vieux au plus fort de la défonce, qui se trémousse sur Francky Vincent en se roulant des pelles au whisky coca.
Wouhou, glamour !
L'image même de la plénitude amoureuse. Mais au bout de 5 minutes, les néons font leur petit effet et je sens ma croupe qui commence à s'agiter, excitée à la vue de la barre de pole dance au milieu de la piste. Finalement, c'est l'éclate, car si on ferme les yeux, on se croirait presque dans sa propre chambre, Francky Vincent en plus. 4h du mat. C'est comme au jogging, on attend le second souffle. Mais on aura beau l'attendre, ce putain de second souffle, il n'arrivera vraiment que 5 shots et une embrouille plus tard, nous laissant tout le temps de nous demander ce qu'on fout encore dans la rue. Mais dehors, on n'y est plus encore pour longtemps, parce que là, on s'engage dans la rue Princesse, au Bedford. Alors le Bedford, c'est un bar, et c'est la galaxie du grand ghetto n'importe quoi. Donc d'abord, il faut sonner, tu sais, comme dans les vieilles maisons closes.
Un bar bleu
C'est un bar, oui, je suis plus.
Oui, il est bleu, je
le bleu, le bête, voilà.
Je connais très bien.
Donc alors, voilà, donc faut sonner, comme un peu dans les vieilles maisons closes, tu sais. Donc t'as un mec au regard un peu en quinconce, qui vient ouvrir, qui jauge vite fait, et bon, finalement, qui te laisse entrer.
Ouais, puis c'est le temple des personnes mûres.
C'est ça.
Ouais.
Voilà, bah justement, il est 5h30, c'est plein. J'aperçois Sinclair au bar. C'est le mec le blond de la Nouvelle Salle, fait coucou.
Qu'est-ce qu'il fait là?
J'en sais rien. Et mes copines ont déjà commencé à escalader sur les tables. Moi, j'essaye aussi, trop heureuse de pouvoir continuer à faire ma chagasse, mais je m'éclate le genou et renverse alors 4 bières sur Charles, le pseudo beau gosse du 6, qui au lieu de m'engueuler, m'invite à fumer une clope en m'infligeant le récit de sa vie pendant une quarantaine de minutes. Mais Charles m'a beaucoup surprise par son originalité. En effet, on ne m'avait jamais draguée en me balançant sans complexe le salaire mensuel de ses parents.
C'est bien ça.
Ah, j'adore. Merci Charles pour ce moment de bonheur.
C'est bien.
Mais on n'ira pas prendre le thé avec tes parents, rue Saint-Guillaume. Non, vraiment, merci.
T'as pas fait tomber son Mont Blanc en te parlant, non?
7h30, retour maison. Je croise mon père qui part au boulot et lui explose de rire à la gueule. Il lève les yeux au ciel, conscient qu'il ne peut plus rien pour moi. Papa, si tu m'écoutes, je suis trop désolé, je danserai plus sur les bars, je boirai plus de shots au nom de position du Kama Sutra, et j'irai bouffer les ritas de Charles jusqu'à la dernière pièce orange. Puis dodo. Arrive alors vendredi,
vendredi, oui.
1, 2, 3. Arrive alors la soirée de vendredi pour laquelle je ferai plus court, pour la simple et bonne raison que je n'ai pas encore réussi à rassembler toutes les pièces du puzzle. Sans m'avancer, je peux vous dire que je me suis rendue à la Gaîté Lyrique, au 3 bis rue Papin, pour le concert In Paradisium, du label Paradise. Donc avec les performances live de Mondkoff, Andy Scott, Perk et Low Jack. Donc moi je connaissais pas du tout, mais c'est des bons gros DJ qui envoient de la minimale un peu deep, c'est trop stylé. Et surtout, le lieu en lui-même est dingue. On danse dans un grand cube de son et lumière, énorme. On boit dans une salle immense, immaculée, remplie de pouf, pas les nanas, ouais. Les sièges.
Ah,
et finalement, on est
heureux. Souvent, il y a les deux. Hein. Ouais, il y a les sièges et les nanas.
Là, ça allait. Là, ça allait. Ouais. Vraiment, j'étais assez contente même de la population. C'était assez cordial. Non, c'était bien. Très, très bien même. Donc, à noter aussi que le lieu propose plein d'expos. Donc, je vous encourage vivement à aller voir sur le site tout ce qu'il en est. Donc alors les gars, même en guerre, même sans GG, et même si on laisse causer des meufs qui s'appellent Frigide, n'oubliez pas, restez hors de chez vous, ça vaudra mieux.
Merci Sonia. L'actu c'est déjà terminé, on vous retrouve la semaine prochaine avec donc vos chroniqueurs préférés. Nous on dit au revoir à ceux qui étaient là aujourd'hui, donc Nicolas, Ahmed et Sonia. Au revoir.
Salut Olivia.
Bonne semaine, revenez nous reposer la semaine prochaine. Et bah on dit à la semaine prochaine. Physical, I think it's on it.